J'ai un peu l'impression, Virgil Thompson, que le père accoucheur de tous ces gens du groupe des six, c'était Satie.
Accoucheur, c'est beaucoup dire, mais le père confesseur, plutôt.
C'est quand même un père. Et...
Ah, il était plus âgé qu'eux, et il faisait la connexion entre cette nouvelle génération et les impressionnistes, parce que lui était contemporain de Debussy.
Et tous les dimanches, il déjeunait chez Debussy, et Debussy détestait aussi Ravel, et là, il faisait semblant d'admirer Ravel pour agacer Debussy. Et alors, il disait, vous, mais mon vieux Claude, les valses sentimentales, et Claude disait, ne me parlez pas de lui, et il s'est disputé. D'ailleurs, vous savez comment cela a fini, puisqu'il voulait faire un opéra comique avec la princesse Malène de Maeterlinck, et son écriture était très bizarre, c'était une écriture de vieux chinois, et cela ne rassurait pas Maeterlinck, qui était un peu comme Hugo, qui disait, je ne veux pas qu'on dépose la musique en bas de ce poème. Et Debussy, qui était plus connu, plus célèbre, déjà plus célèbre, et plus sage, plus réfléchi, avait obtenu en cachette de faire avec Maeterlinck, Péléas et Mélisande. Mais la première idée était de Satie, qui disait, je veux faire une musique où les arbres, il n'y a aucune raison que les arbres du décor se convulsent comme l'orchestre. Il faut souligner seulement le texte et le baigner dans une sorte de brume musicale.
Et ce que dit Jean Cocteau nous ramène à Francis Poulenc, qui malgré la mort joue une gnossienne de Satie. Germaine Taillefer, qui, elle, joue encore sa gymnopédie.
C'est la tendresse même, la tendresse, la musique des gymnopédies de Satie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre plus tendre. Ils se voulaient sec, ils se croyaient sec. Ils avaient fait de la musique en emporte-pièce, et quand on entendait ces pièces ravissantes, d'une harmonisation, il y avait une espèce de cocasserie dans le développement musical. Et ça n'était jamais dur. Non, Darius Milhaud avait plus d'audace harmonique.
J'imagine que les Francis Poulenc, les Darius Milhaud de l'époque, quand même regardaient vers Satie avec un œil craintif et admiratif.
Oui, mais enfin, il ne nous intimidait pas. Il avait de grandes colères, il avait un caractère épouvantable.
C'était un pince sans rire.
Vous l'avez bien connu?
Assez bien, oui. Parce que je le voyais chez les Bertins, et je le voyais chez d'autres amis aussi, quelquefois au café, parce qu'il aimait bien le café. Les limonadiers, ils buvaient sec.
Puis, le témoignage de Georges Auric.
Ah, Satie, c'est un personnage qui certainement n'était pas un fantaisiste du tout. Je crois qu'il y avait peut-être une part de folie dans Satie. car j'ai cru pendant très longtemps que c'était un individu très comique, très drôle, plein d'humour, et tout d'un coup, j'ai compris que son humour était des plus noirs.
Parce que nous avons tous été fâchés avec Satie. Auric a une brouille mémorable avec l'histoire du parapluie.
Georges Auric, dans cette évocation de l'après-guerre à Montparnasse, avant même d'entendre vos souvenirs, j'aimerais vous faire entendre une histoire que nous a racontée Pierre Bertin.
Satie, qui avait toujours son éternel parapluie, car lui, alors, le couchait avec son parapluie. Et alors, il avait mis son parapluie avec les autres. Quand il le reprit, il s'aperçut que son parapluie était troué. Alors, il regarda et il vit qu'il y avait un parapluie qui était entré dans son parapluie, vous savez, comme maladroitement. Et il prit le parapluie et dit « À qui ce parapluie ?» Mais il est horrible, rougit son type, il dit « Mon maître, c'est à moi, c'est mon parapluie. Comment ? Vous avez mis votre parapluie dans le mien, vous avez fait un trou à mon parapluie. » Mais écoutez, non, je n'ai pas fait de trou, j'ai mis mon parapluie comme ça dans le porte-parapluie. Vous l'avez fait exprès, je vous dis. Vous êtes un maladroit et d'ailleurs un impertinent. Je ne vous parlerai plus jamais. Enfin, vous ne savez pas pourquoi j'ai fait ça. Mais écoutez, je vous le dis, Georges Auric, c'est fini entre nous. C'est fini, je ne vous parlerai plus jamais. Ça a duré 2 ans, cette fois. Enfin, ce n'était pas grave, vous comprenez. Parce que Satie adorait Auric. C'était son préféré, je crois. C'était son préféré. Alors.
Qu'en pensez-vous, Georges Auric?
Eh bien, je suis à la fois un peu surpris, et d'autre part, je pense qu'il y a une très grande part de vérité dans cette plaisante aventure, ou mésaventure, je ne sais pas. Je pense que la mémoire de Bertin est beaucoup plus précise que la mienne, parce que j'avais oublié les détails de ceci. Ce que je n'ai pas oublié, en revanche, c'est que cette aventure du parapluie de Satie se passait la veille de mon départ, ça se passait pendant, non pas hélas après la dame, la guerre de 1914, mais à la fin de la guerre de 1914. Et je partais le lendemain de cette horrible tragédie avec Satie, je partais pour rejoindre mon régiment.
Et je me rappelle que quand on a répété Parade, Satie l'admirait beaucoup, parce que on le jouait chez les Godepski, où nous nous réunissions tous, et il donnait des noms cocasses à ces morceaux de piano, pour ne pas s'admirer lui-même, un peu comme si Narcisse se faisait des grimaces dans l'eau. Et on l'admirait, et Ravel a dû venir, à ma demande, dire aux musiciens que l'orchestre de Parade était extrêmement beau, parce que les musiciens refusaient de jouer, croyant que c'était de la musique de cirque.
Mais vous qui êtes musicien, Virgil Thompson, quel serait, selon vous, et pour autant qu'on puisse le dire avec des mots, l'apport d'un Satie à la musique du XXe siècle? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important?
Fraîcheur dans tous les domaines.
Fraîcheur.
Dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il a revu l'harmonie, le contrepoint, la dissonance, la consonance, la phrasée. Il a tout revu en musique et il avait son approche personnelle à la musique à travers l'originalité intègre.
Un homme comme Satie, avec sa folie, avec son humour, si vous voulez, avec sa fantaisie, avec sa détresse aussi, puisqu'il était si malheureux, eh bien, Satie demeure pour moi, dans tous les gens que j'ai vus depuis tout de même maintenant pas mal d'années, eh bien, peut-être l'individu le plus curieux, au point de vue humain et au point de vue artistique, que j'ai jamais rencontré. Et je ne l'oublierai jamais. Et je pense d'ailleurs que tous ceux qui l'ont connu, et qui l'ont vraiment connu, et qui ont compris que c'était autre chose que ce plaisantin dont on parlait toujours. Vous savez qu'après sa mort, on a enfin pénétré dans son appartement. Il habitait Arcueil, dans une petite maison très, très misérable. Et il n'avait jamais voulu recevoir personne chez lui. Et quand on est entré dans son appartement après sa mort, on a été stupéfait de ce qu'on a trouvé. C'était une chose absolument effroyable de misère, de pauvreté.
Darius Milhaud et quelques autres amis sont entrés, on a trouvé 2 pianos avec eux, l'un sur l'autre, tous les 2 sans cordes. Et derrière ces pianos, il y avait des partitions entières de 1906, telles que l'opéra au sujet de Sainte-Geneviève, pas Sainte-Geneviève, comment s'appelait, Geneviève de Brabant, c'est ça l'opéra, et aussi le ballet Jack in the Box. Il n'avait jamais parlé de cela à personne, il avait peut-être oublié que ça existait. Il y avait une centaine de parapluies. Il adorait les parapluies. Quand il avait de l'argent, il en achetait tout le temps. Il ne se faisait faire jamais de blanchissage. Il portait toujours des chemises et des faux cols neufs. Mais les vieux, il les rejetait partout dans la chambre. C'était plein de linge sale.
On a trouvé toutes nos lettres, tous les paquets que nous lui envoyons, les lettres pas ouvertes, les paquets pas ouverts, tout ça était dans des couches de poussière comme les temples grecs qui s'étaient enfoncés dans le sol. Et on a retrouvé dans sa chambre tout ce qu'on lui écrivait et tout ce qu'on lui envoyait absolument intact.
D'ailleurs, il écrivait toujours dans les cafés. Il n'y avait ni plume ni encre chez lui. Il y avait pourtant les brouillons au crayon de tout... Les petits mots, les petits bleus qu'il envoyait à ses amis, qui étaient si spirituels, ça, il avait un peu étudié, esquissé avant de les copier, de les envoyer. Mais la copie de cela, comme l'écriture musicale, il faisait au café.